Voici les titres du journal.
Deuxième budget consécutif dans le rouge pour l'État de Vaud. Les prévisions 2022 présentées aujourd'hui à Lausanne affichent un déficit de 188 millions de francs. Nous en parlerons avec le conseiller d'État chargé des finances, Pascal Broulis. Les 2876 étudiants de la HESSO Valais-Vallis ont repris le chemin des classes hier. Une entrée marquée par des nouveautés sur le plan de l'enseignement, avec l'ouverture de deux nouvelles classes labellisées Team Academy. Une nouvelle initiative pour un revenu de base inconditionnel a été lancée aujourd'hui à Berne. Ceci malgré un échec cuisant dans les urnes en 2016, les précisions de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. En cyclisme, les amateurs de dénivelé ont été servis lors de la première édition de l'UCI Gran Fondo Suisse à Villars. Quelques 174 participants ont pris le départ de cette course de 108 km au cœur des Alpes vaudoises.
Et pour la météo, un temps ensoleillé pour aujourd'hui et demain, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Deuxième budget consécutif dans le rouge pour l'État de Vaud. Les prévisions 2022 présentées aujourd'hui à Lausanne affichent un déficit de 188 millions de francs. Ceci sur une enveloppe globale de 10,6 milliards. Pour en parler, j'ai avec moi le ministre chargé des Finances, Pascal Broulis. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, un budget cohérent, un budget de cohésion, c'est comme ça que vous l'avez qualifié aujourd'hui. On garde le sourire malgré ce déficit?
Oui, parce que d'abord, il y a des baisses fiscales qui sont présentées, qui concernent quatre segments de la population. Ceux qui arrivent à la retraite, deuxième, troisième pilier, la question qui touche aux familles et qui est des déductions pour frais de garde. Et puis, une déduction pour personnes célibataires pour contribuables modestes. La dernière, ça concerne l'entrepreneur. Donc ça, c'est pour la fiscalité. Puis le reste, ben, c'est un soutien qui est quand même très diversifié dans une multitude de politiques, en maintenant aussi un budget d'investissement très élevé, puisqu'on est à peu près à 900 millions.
Justement, vous expliquez ce nouveau déficit par une augmentation des charges liées à la démographie, notamment. Il y a d'autres explications également?
Alors, c'est principalement en lien avec la démographie scolaire. Là, il y a des besoins de renforcement avec des postes nouveaux. Il y a des questions qui touchent à l'accord canton-commune. Il faut bien pouvoir le financer. Et donc, ça a un impact sur le budget de l'État. Et puis, des renforcements sectoriels dans le domaine de la formation et puis de la santé.
On pourrait se dire qu'en temps de pandémie, hein, forcément il y a des dépenses, 180 millions environ, c'est finalement pas si dramatique. Mais il y a cette particularité vaudoise que le Covid est absent en fait des projections, les coûts du Covid sont financés hors budget. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à un déficit bien plus élevé au final pour les comptes?
Non, l'idée après c'est de ramener le budget proche de l'équilibre. Donc nous, les coûts Covid, on les a toujours traités à part pour qu'on puisse faire un suivi. Puisqu'on sait que l'opération Covid va durer jusqu'à à peu près 2025-2030. Il faut être conscient qu'on aura encore des reliquats dans les comptabilités d'entreprise avec les pré-Covid jusqu'en 2028. Et puis quand elles bouclent leur compte, ça veut dire 2030. Donc on suit ça avec des tableaux de bord en dehors de la procédure budgétaire ordinaire. Il faut savoir que pour 2020, on a pu financer par l'excédent de revenus 1 milliard. Et on a toujours présenté des comptes positifs. Les comptes 2020 étaient positifs, y compris les coûts Covid d'un milliard. Je présume que pour la situation de 2021, on aura un peu la même situation dans le sens où on a un préfinancement de 403 millions qu'on a mis de côté au bouclement des comptes 2020, qu'on utilisera ensuite pour financer les coûts qui se montent aujourd'hui à 302 millions. Donc je pense qu'on sera un des seuls cantons suisses à pouvoir absorber la pandémie au niveau de ses coûts.
On a des revenus aussi qui sont prévus en hausse avec des recettes fiscales positives malgré de nouvelles baisses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
Alors, tout d'abord, il y a plus de gens. Donc, on n'a pas augmenté les impôts au niveau du taux, mais il y a plus de gens qui, en principe, doivent payer des impôts. Donc ça vous donne... Du moment qu'on a un canton qui enregistrant une décroissance démographique les plus importantes de Suisse, voire du continent européen. Parce que la Suisse a une croissance démographique qui est supérieure à beaucoup de pays européens. Donc quand on enregistre une croissance démographique importante, on part du principe que ces gens qui arrivent vont payer des impôts et qui seront pas au chômage, c'est le cas. Premier point. Ensuite, le canton, par sa diversification du tissu économique pour l'ensemble des régions, s'est plutôt bien comporté. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas de gens, on n'a pas une augmentation du nombre de personnes qui sont à l'aide sociale. Et puis, on n'a pas non plus une augmentation du chômage. Ce qui veut dire que logiquement, ça va aussi se traduire sur des rentrées fiscales en augmentation, puisque c'est des gens qui paient des impôts.
Et puis, du côté des investissements, vous n'avez pas lésiné non plus. 850 millions d'investissements projetés, c'est un peu audacieux ça quand même.
C'est les besoins que nous avons listés dans les principaux secteurs que sont le volet hospitalier, la transition climatique, hein, puisque on a des projets d'investissement qui concernent le remplacement des chaudières, la question de la mobilité dans le domaine des routes, des plans sectoriels pour le climat, de la formation au niveau des hautes écoles. Donc voilà, dans ce secteur-là, là-dessus, on a une somme qui est conséquente. Et puis après, il y a des besoins qui étaient liés à des constructions scolaires, par exemple, comme les gymnases, qu'on va ouvrir. Hein. On ouvre cette année 3 gymnases. Prochainement, dans l'Est Vaudois, il y aura le gymnase d'Aigle qui s'inscrit aussi dans un volet climatique, puisqu'il est en bois local, donc circuit court, bois vaudois. Donc voilà pourquoi on investit. Est-ce qu'on arrivera à dépenser 850 millions ? Ça, j'en suis moins sûr. Parce que vu l'attitude de certains, blocage pour l'hydraulique, blocage pour les éoliennes, blocage pour les panneaux photovoltaïques, blocage pour la densification dans les villes, également aussi chaque fois qu'on veut toucher à des plans de mobilité ou de modification de comportement, des blocages. Alors, au final, on les fait ces projets, mais ils prennent 2, 3, 4 ans de retard. Et c'est pour ça qu'il faudra aussi que tout un chacun tire la même corde et accepte que si on veut réussir une transition énergétique et climatique, il faut arrêter de bloquer. Parce que si on veut mettre les gens plus tôt où c'est déjà construit, il faut accepter la densification. Puis c'est les mêmes qui bloquent les choses. Alors il faudra, à un moment donné, il y a un débat, puis une sorte de sainte alliance qui fasse que si on veut plus de gens, forcément c'est plus de besoins d'investissement. Donc j'espère que les gens ne tiennent pas un même discours.
Merci beaucoup Pascal Broulis, on imagine que vous regarderez ça de l'œil de l'ancien grand argentier, étant donné que vous allez quitter le gouvernement. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce budget 2022.
Avant une année, je quitterai l'année prochaine, au mois de juin.
Bien sûr, mais on parle quand même d'investissement à longue échéance. Merci beaucoup Pascal Broulis.
Merci à vous, au plaisir, au revoir.
Les députés vaudois ont poursuivi ce matin leur débat marathonien sur la révision totale de la loi sur l'exercice des droits politiques. Le Grand Conseil a décidé en premier débat de fixer à 5 000 francs le seuil nécessitant la publication de l'identité des donateurs pour les personnes physiques et morales qui financent des partis et des campagnes politiques. Ils ont en revanche rejeté un amendement de la gauche radicale qui voulait baisser ce seuil à 2 000 francs. Un fort dégagement de fumée s'est échappé hier soir du toit du casino de Montreux. Avisé vers 23h30, les pompiers ont craint un incendie. Un important dispositif a été mis en place avec la fermeture complète de la rue et l'évacuation préventive des clients et employés de l'établissement. Les hommes du feu ont rapidement déterminé qu'un problème technique d'une chaudière était la cause du sinistre. Après 2 heures d'intervention, le casino a pu ouvrir ses portes à nouveau. Aucune personne n'a été blessée ni incommodée.
Le Valais célèbre pour la première fois sa diversité linguistique.
Une fête des langues est organisée ce prochain samedi aux Arsenaux de Sion. L'objectif est de sensibiliser la population à la richesse linguistique et d'encourager la diversité et la compréhension interculturelle. La soirée se concentrera sur la question du bilinguisme dans le canton et en Suisse.
De plus en plus d'étudiants des hautes écoles valaisannes apprennent à devenir des entrepreneurs.
C'est du moins le cas de ceux inscrits dans un cursus de Team Academy, une méthode d'enseignement finlandaise basée sur la résolution de problèmes. 2 nouveaux cursus ont été inaugurés hier, un à la Haute École de Travail Social et un autre à la Haute École de Gestion, la Digital Team Academy. Au total, le Valais compte désormais 4 filières de ce type. Une révolution de l'enseignement est-elle pour autant en cours ? Les réponses de François Cépé, directeur de la HESSO Valais-Vallis.
C'est un changement de fond, mais qui ne concerne pas tous les étudiants. Donc on se rend compte que plus on va, plus les parcours de formation deviennent flexibles et individuels. Et il s'agit de répondre à ces besoins-là tout en étant en capacité de maintenir le niveau de compétences que les jeunes acquièrent. Et ce sont des formes d'enseignement qui sont différentes. La matière est acquise à la fin, c'est ce qui compte, mais le chemin pour y arriver est différent. Et on se rend compte que ça parle à un certain nombre de jeunes, pas à tous, et c'est une façon d'aborder ces jeunes-là qui ne viendraient pas chez nous sinon, et de leur donner la possibilité de se former.
L'année passée, c'est la Haute École de Santé qui avait lancé sa Nursing Team Academy. Premier bilan avec la directrice de cette école, Anne Jacquier de Lalleuil.
Globalement, nous pouvons vraiment tirer un bilan positif par rapport à cette première année, dans le sens où nous voyons deux choses intéressantes. Un, les étudiants développent des compétences très clairement en lien avec les profils de compétences attendus dans les programmes standards. Et deux, en sus, ils développent des compétences additionnelles qui sont attendues des diplômés bachelor aujourd'hui, notamment des éléments de résolution de problèmes, des éléments aussi par rapport à l'esprit d'entreprise et des choses de ce type-là. Maintenant, il est vrai que ce n'est qu'un bilan partiel puisqu'on est à l'issue de la première année du programme et le bilan, il faudra le tirer dans deux ans lorsque ces diplômés seront sur le marché du travail, voire même le tirer dans quatre ans lorsqu'ils auront travaillé une année. Peut-être le petit point qui mérite une attention particulière est sans doute la préparation des étudiants au stage puisque nous n'avons peut-être pas tout à fait pu aménager les stages comme nous aurions souhaité. Il faut aussi tenir compte des besoins du terrain, des réalités, des milieux professionnels. Et là, nous devons sans doute peut-être regarder la manière dont nous préparons les étudiants et d'autre part, la manière dont nous préparons les milieux de pratique à accueillir ces étudiants qui ont un profil un petit peu différent.
Et bien que novateur, le modèle a toutefois ses limites. Gaëtan Chéry, directeur de la Haute École d'ingénierie.
C'est clair que dans l'ingénierie, il n'y a pas de modèle Team Academy au monde. Il y a des modèles hybrides un peu qui ressembleraient à ce que disaient les gens de travail social, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer aux étudiants de découvrir eux-mêmes les théorèmes de mathématiques, ça a pris des siècles et ils n'ont pas des siècles pour étudier. Donc nous, on pourrait imaginer sortir un programme avec une première année qui serait quand même très classique dans le sens transmission de compétences et connaissances de base et puis petit à petit développer un tel modèle. Je dirais que là où ça m'interroge beaucoup, et d'ailleurs on est en train de travailler là-dessus, c'est de se dire, est-ce qu'on veut faire un programme à part Team Academy ou est-ce qu'on veut essayer de pousser tous les étudiants de la Haute École d'ingénierie vers un peu plus d'approche type apprentissage par projet? Et là-dessus, je n'ai pas encore la réponse.
À noter que le Valais fait figure de précurseur dans la diversification de ses cursus à des domaines autres que l'économie d'entreprise, un sujet réalisé par Bertrand Girard. Aller à la rencontre des hérissons des Alpes vaudoises, c'est l'opération que proposent Alpes Vivantes et Nos Voisins Sauvages à travers quatre excursions dans la région. Celles-ci auront lieu jeudi soir à Bé, samedi matin à Lézin, le samedi 9 octobre à Grillon et le jeudi 14 octobre à Aulon. Les promenades seront guidées par Nicolas Dulay sur les traces du petit mammifère. Le biologiste expliquera aux visiteurs son habitat ainsi que les dangers qui le guettent. Il présentera également les mesures à prendre pour le protéger. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet d'Alpes Vivantes ou sur la page Facebook de Nos Voisins Sauvages. Plongeon acrobatique, trampoline, voltige aérienne ou encore vélo trial, Montreux a vu défiler ce week-end quelques 170 adeptes de sport acrobatique à l'occasion de Montreux Acrobatie. 4 ans après celle de 2017, cette deuxième édition a attiré plus de 2000 personnes. Une fréquentation plus que satisfaisante pour les organisateurs au regard de la météo et des mesures sanitaires. En l'air, dans l'eau, sur la croupe d'un cheval ou en salle sur des engins, les athlètes ont présenté sur trois jours quelques 150 spectacles, ceci dans 25 disciplines différentes.
Les jeunes de la commune de Lavémorcle peuvent adhérer à une nouvelle association.
Il s'agit d'une jeunesse, un type d'organisation relativement rare dans le Chablais vaudois comme Valaisan. Une vingtaine de personnes âgées de 16 à 27 ans font partie de ce groupe. Il est présidé par Shannon Bonny, qui est aussi sa cofondatrice. Au micro de Margot Roguin, elle raconte comment l'aventure a débuté.
C'est parti de mon frère et moi. On est originaire d'un village qui s'appelle Chevroux. C'est vers le lac de Neuchâtel. Et en fait, chaque année, on a une fête là-bas, dont c'est la jeunesse qui organise. Et en fait, ben, on y participe chaque fois. Et puis c'est vrai qu'on voit cette ambiance et tout. On a vraiment aimé ça. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça par chez nous? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunesse par ici. Et après tout ce confinement, on s'est retrouvés avec plutôt des copains à lui, dans un bar, et on a commencé à discuter de ça, et il y a 3-4 copains qui étaient chauds, comme ils ont dit ça, à participer, et du coup on s'est dit, ben, go départ, qui c'est qui fait quoi, qui veut faire président, et c'est parti comme ça.
Et c'est tombé sur vous, du coup, la présidence, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans une jeunesse, on a plutôt une vision d'une organisation entre hommes. Comment ça se passe de présider ce comité en tant que femme?
Alors, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est parti sur moi parce que je sais pas pourquoi ils se sont dit on a besoin de quelqu'un de responsable. Ils se sont dit, ah, toi tu bois des sirops, tu fais présidente. Et puis moi, je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Bah, c'est compliqué parce que déjà, moi, je trouve que je n'ai pas la personnalité d'une présidente. Et du coup, ça fait bizarre parce qu'il m'appelle présidente et tout. Et au tout début, on avait que... enfin, j'étais la seule fille. Et ensuite, on a eu un petit changement. Du coup, maintenant, on est deux filles dans le comité. Mais je le vis plutôt bizarrement. Enfin, j'arrive pas encore à trouver ma place de présidente. Je sais pas ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. C'est assez compliqué pour l'instant.
Et du côté des autorités, comment voit-on la création de cette association ? Traduit-elle un manque d'activité pour les jeunes ? Réponse du syndic de la Vémorcle, Mario da Silva.
Non, ça manque pas d'activité des jeunes, parce qu'il y a d'autres sociétés quand même. Un groupement de sociétés, on va dire, qui est l'association pour la nuit rocane, la fête du village traditionnel. Donc là, il y a beaucoup de gens, jeunes, on va parler de peut-être de 18 à une cinquantaine d'années. Donc toute représentation est faite. Et puis il y a également le Carna Club de Lavey, où il y a historiquement qui est, on va dire, assez ancien, mais qui a été créé toujours à l'époque par des jeunes. Et puis il y a les moins jeunes qui gentiment laissent la main à toujours des plus jeunes. Donc il y a des jeunes dans le village quand même. Mais là, c'est une nouvelle association, donc c'est vrai que c'est chouette.
Et le prochain objectif pour la jeunesse de Lavey-Morcle était d'organiser une fête du village. Prévue samedi dernier, malgré l'autorisation du canton, les fondateurs ont préféré la reporter à l'année prochaine. Environ 18 000 personnes se sont rendues à la 16e édition du festival BDFil à Lausanne. Malgré une nette baisse par rapport aux années précédentes, la fréquentation est néanmoins réjouissante pour les organisateurs. Durant 4 jours, BDFil a célébré une certaine renaissance. Le public a notamment pu apprécier Mona Lausanne, qui, au travers des réinterprétations conçues spécialement pour le festival par les artistes des scènes suisses et internationales, revisitait la Joconde, plus célèbre tableau de la Renaissance italienne de Léonard de Vinci, bien entendu. La 17e édition de BDFil aura lieu en été 2022.
Les vaporettes devraient être réglementées.
Mais avec une réglementation différente de celle des produits de tabac chauffé, c'est ce que conclut un panel d'experts de 15 pays, interrogés par Unisanté à Lausanne et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le cadre d'une enquête Delphi. Selon ces spécialistes de la prévention du tabagisme, la réglementation relative à la vente, la taxation, l'interdiction d'utilisation dans des lieux publics fermés, les restrictions publicitaires et les avertissements sanitaires sur les emballages devraient s'appliquer également à ces types de produits. Le commandant de la police municipale de Lausanne, Olivier Botron, est le nouveau président de la conférence des chefs de police des villes de Suisse. Il a été élu par l'Assemblée des délégués pour un mandat de 3 ans. Vice-président depuis 2018, le Lausannois succède à Daniel Blumer, commandant de la police de la ville de Zurich. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la ville de Lausanne se dit convaincue que son expérience de commandant, son expertise et sa vision lui permettront de représenter les intérêts de toutes les villes de Suisse dans la gestion de la sécurité urbaine. La Suisse compte 146 500 personnes atteintes de démence, principalement atteintes d'Alzheimer. Et à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui, 3 organisations concernées réclament de meilleures conditions cadres pour la prévention, la recherche et le traitement. Le nombre de personnes atteintes actuellement en Suisse devrait doubler au cours des 3 prochaines décennies et atteindre 315 000 cas d'ici 2050. Alzheimer Suisse, Swiss Memory Clinics et la fondation Synapsis Recherche Alzheimer Suisse tirent donc la sonnette d'alarme. Le système de soins actuel n'est pas en mesure de faire face à une telle augmentation. La prise en charge est très complexe et particulièrement pesante pour les proches. Les démences entraînent déjà des coûts annuels de 11,8 milliards de francs. Près de la moitié sont assumés par des proches sous la forme d'assistance et de soins gratuits.
Le projet de revenu de base inconditionnel fait son grand retour en Suisse au travers d'une nouvelle initiative populaire lancée à Berne ce matin.
Oublié la votation sur le même sujet en 2016, où plus de 3/4 des votants avaient rejeté un RBI jugé flou et infinançable. Le comité d'initiative sans attache à quelque parti que ce soit, qui se dit ni de droite ni de gauche, porteur d'un projet qualifié de radical, le comité dit avoir retenu les leçons de 2016. Pour financer le RBI, l'initiative veut taxer les transactions financières, le chiffre d'affaires des entreprises technologiques ainsi que les revenus des capitaux. Écoutez l'une des initiantes, la vaudoise Kalina Angelova.
Aujourd'hui, on voit que le système social et le système économique a des failles. De nombreuses personnes qui ont été précarisées, les personnes qui étaient déjà précarisées ont été encore plus. Et quoi de mieux qu'aujourd'hui pour se rendre compte qu'on a besoin d'une autre solution. On a besoin aujourd'hui de penser le monde autrement. Et c'est vraiment une urgence maintenant. Le texte change. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les prestations sociales existantes aujourd'hui vont être adaptées. Mais on ne peut pas exactement dire de quelle manière. On ne peut pas aller dans des détails aussi profonds parce que ça va être décidé ultérieurement par le Parlement. Et surtout, on dit clairement que le RBI est finançable par le secteur financier notamment.
L'association Revenu de base suisse s'appuie sur 10 personnes qui représentent toutes les générations, les régions du pays avec une majorité de femmes. Comment présenter ce comité ? L'un de ses membres, le Genevois Thomas Produit.
On est un comité de gens simples, on va dire, mais qui s'articule autour de deux personnes qui sont illustres. On a Oswald Si, qui était déjà là à la dernière fois. Donc finalement, lui, il n'est plus à présenter dans le cadre de cette idée. Et aussi Rebecca Pagnan, qui a justement eu ce projet à Zurich, où justement ils ont vraiment tenté de faire une sorte de RBI à petite échelle. Le comité s'articule autour de cette hétérogénéité, justement pour nous donner de la force, tout en s'appuyant sur des gens qui ont de l'expérience et qui sont déjà, on va dire, en vue, si j'ose dire, sur ce sujet.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le comité d'initiative pour la création d'un revenu de base inconditionnel en Suisse a 18 mois pour recueillir et déposer 100 000 signatures. Thomas Heiniger se retire de la présidence de la Croix-Rouge suisse. L'ancien conseiller d'État zurichois avait été élu à cette fonction en juin 2019, rappelle aujourd'hui la CRS dans un communiqué. La période de la pandémie a intensifié des discussions sur les rôles et la coopération entre les différents bureaux de l'organisation humanitaire. Des oppositions ont émergé entre approches centralisatrices et fédéralistes. Compte tenu de ces divergences de vues, Thomas Heiniger a donc décidé, dans le cadre d'une réorganisation, de renoncer aux tâches qui lui étaient dévolues. Un triumvirat issu du Conseil de l'organisation humanitaire reprendra sa fonction par intérim. Une élection aura lieu lors de l'Assemblée de juin 2022.
Le Conseil national a décidé hier de prolonger le régime de redevance hydraulique jusqu'en 2030.
Et cela à une très nette majorité de 154 contre 34 voix. Un élan de soutien aux énergies renouvelables en Suisse, mais qui peut surprendre quand on sait que ce même Parlement a demandé au Conseil fédéral d'étudier une redevance flexible et mieux calquée sur les prix du marché de l'électricité. Les représentants des cantons alpins ne cachent pas leur satisfaction, à l'instar du Vert valaisan Christophe Cliva.
Il y a évidemment l'intérêt des cantons de montagne de poursuivre ce tarif de la redevance jusqu'à 2030, mais il y a aussi d'autres arguments, notamment la sécurisation de la planification. C'est vrai que les investisseurs, les conditions sont claires jusqu'en 2030. Et puis moi, je dirais aussi qu'un élément qui paraît important, c'est que l'eau, c'est une ressource naturelle. On a un usage, on en bénéficie, et il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a un prix à payer pour cela.
La flexibilité, qui d'ailleurs va revenir dans le débat, puisqu'on a demandé au Conseil fédéral de préparer un projet en ce sens, elle permettrait d'avoir une redevance qui serait bien supérieure, non ?
C'est pas sûr, et je crois qu'en tout cas, du point de vue des cantons alpins, il y a plutôt le risque de se retrouver dans 3 ans à devoir négocier cette nouvelle redevance comme seul objet et pas de pouvoir mettre dans le paquet plus global comme aujourd'hui, avec le risque, en fonction de l'évolution finalement, de ne pas réussir du tout à obtenir des conditions favorables. Là, je crois que tout le monde y trouve son compte.
Et des opposants à la décision de proroger jusqu'en 2030 l'actuel régime de redevance hydraulique ont-ils voté contre les régions de montagne ? Réponse du libéral radical fribourgeois Jacques Bourgeois.
Non, je n'ai pas voté contre les régions de montagne, mais je crois que le Parlement, en 2019, a décidé de demander au Conseil fédéral de mettre en consultation une flexibilisation de la redevance hydraulique. Il est prêt à mettre en consultation cette flexibilisation. Et je trouve que lorsque le Parlement mandate le Conseil fédéral d'aller dans un sens, on n'arrête pas le processus au milieu de ce processus. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. Maintenant, il faut aussi relativiser, parce que lorsque l'on regarde les prix du marché, si on flexibilisait selon les prix du marché, on serait au-delà des 550 millions actuels. Si les prix restent comme ça ces prochaines années, ça ne va pas gêner de prolonger de 5 ans.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, toujours Serge Jubin. Le débat sur l'approvisionnement électrique ne fait que commencer au Parlement. Une révision totale de la loi sur l'énergie est annoncée. À l'étranger, les résultats des législatives russes ne plaisent pas à tout le monde. L'opposition a dénoncé des fraudes massives lors de ce scrutin qui a vu le parti du Kremlin rafler une super majorité des 2/3. Point final d'un scrutin sur mesure dont avaient été exclus les détracteurs de Vladimir Poutine, à l'image d'Alexei Navalny qui croupit en prison. La France n'est pas seule face aux États-Unis dans la crise des sous-marins. Les pays de l'Union européenne ont témoigné leur soutien à l'Hexagone hier. Les ministres des Affaires étrangères des 27 sont réunis à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Ainsi, l'alliance entre Américains, Britanniques et Australiens a des répercussions importantes puisque la France a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra. En curling, deux équipes romandes de niveau mondial s'affronteront dès demain et jusqu'à samedi à Bienne. Cette confrontation permettra de déterminer qui, de Genève ou de Berne, Zeringer, représentera la Suisse aux Jeux Olympiques de Pékin. La décision se fera sur une série en best-of 7. Deux matchs se dérouleront chaque jour à partir de demain. En août, les deux formations s'étaient retrouvées en finale d'un tournoi World Tour à Baden. Les Bernois avaient alors pris le meilleur. Chez les dames, il n'y a pas besoin de barrage. Les doubles championnes du monde du CC Aarau, de la skip Silvana Tirinzoni, représenteront la Suisse à Pékin avec de solides espoirs de médailles.
En cyclisme, Villars a accueilli la première édition de l'UCI Grand Fondo Suisse dimanche.
Unique étape en Suisse en 2021, cette course réservée aux amateurs s'est tenue au cœur des Alpes vaudoises. Un tracé de 108 km pour 2593 mètres de dénivelé, c'est ce qui était au programme pour les 174 coureuses et coureurs qui ont pris le départ au petit matin. Dans des conditions rendues difficiles par la météo, c'est l'Italien Fabio Cini qui a été le plus rapide en 3h24 minutes. Le coureur transalpin a battu son compatriote Ettore Kallin, deuxième, et le Valaisan Valentin Darbelin, troisième. Le coureur de ride était satisfait de sa performance. Il est notamment revenu sur la pluie et le froid qui ont compliqué cette matinée de course.
Ouais, alors c'est clair, les couches, là, on a fait toute la journée en survêtement et ça fait quand même la différence, mais à bout d'un moment ça traverse et c'est clair, on peut pas y remédier, mais c'est pas grave. Après, au niveau de l'alimentation, ça va, c'est plus difficile vraiment à s'alimenter parce qu'on a les mains gelées, vraiment ouvrir des barres, c'est pas si facile que ça. Du coup, on fait comme on peut, on va dire.
Et chez les dames, la Chablaisienne Katia Bernet a pris la deuxième place. La coureuse du Bouvray n'a été battue que par la Zurichoise Léa Fuchs, vainqueur en 3h57 minutes. À l'heure de l'interview, Katia Bernet revenait sur la faible participation féminine à Villars.
Oui, alors c'est quelque chose de connu et puis à la fin de la course on se félicite toujours puis on est content de voir qu'il y a d'autres participantes.
Katia Bernet, dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il y a encore peut-être d'autres courses pour vous qui vous attendent cette saison? Qu'est-ce qu'il en est?
Non, alors pour moi la saison elle est finie, mais c'est la saison de Pot-de-Foc qui va commencer, alors de nouvelles jolies aventures.
Des propos recueillis par Ludovic Turin, Katia Bernet et Valentin Darbelet décrochent donc le sésame pour se rendre aux Mondiaux de Sarajevo qui se tiendront du 5 au 10 octobre prochain. Si la Chablaisienne ne s'y rendra pas pour des raisons organisationnelles, le Valaisan n'a pour l'heure pas encore pris de décision. Et la 40e semaine olympique voit les choses en grand à Lausanne. Elle invite des jeunes de 8 à 15 ans à bouger, apprendre et s'amuser. Du 17 au 21 octobre prochain, des activités et initiations seront proposées dans les murs du musée olympique. Les participants pourront y croiser des personnalités sportives ainsi que des professionnels de la santé. L'expérience se poursuit également sur Internet avec des web-séries pédagogiques mises en ligne.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec François Nicollier, agencement de cuisine, dressing et menuiserie sur mesure depuis plus de 40 ans à Aigle et au Diableret. fnicollier.ch.
Le temps sera ensoleillé cet après-midi avec quelques cumulus sur les crêtes. Il va faire au maximum 19 degrés en plaine, 16 à 1000 mètres pour demain. Temps toujours ensoleillé malgré quelques bancs de nuages bas possibles en début de matinée sur la Riviera et la plaine chablaisienne. Il va faire de 7 à 19 degrés en plaine, de 6 à 16 à 1000 mètres et de 4 à 12 à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.